19h01 sur Radio Campus Paris. Enlevez vos tongs, détachez vos ceintures et installez-vous bien confortablement sur votre bouée en caoutchouc. C'est l'heure de Radio Camping Paris.
Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Le mois de juillet touche à sa fin. Bientôt, le chassé-croisé des vacances, ceux qui ne sont pas encore partis pourront narguer ceux qui sont déjà rentrés. Dans quelques jours, je n'aurai plus rien à faire. Ouvrir un bon bouquin, me prélasser au soleil et nager, 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 nager. J'en rêve. Je ne sais pas pour vous, mais il y a toujours quelque chose d'assez frustrant avec les vacances. Comme si on se projetait tellement dans les vacances que finalement, on était toujours un petit peu déçu. Une sorte d'insatisfaction, d'incapacité à atteindre l'état dans lequel on aurait aimé être. On n'est ni complètement détendu, ni complètement heureux, ni complètement satisfait. Comme s'il manquait toujours un petit quelque chose pour que tout soit parfait. Comme pour les bonnes résolutions du nouvel an, celles qu'on se donne pour les vacances sont difficiles à tenir. Culture, sport, repos et vie saine. Au bout d'un jour, on se contemple en train d'essayer de faire passer des frites grasses avec un verre de mauvais rosé, un cendrier débordant à côté de la chaise longue après une nuit blanche bien trop arrosée. Pour la culture, on repassera, les musées ferment bien trop tôt. Peut-être faudrait-il qu'on arrête de vouloir toujours tout maîtriser, ne pas succomber pour une fois à ce toute exigence que l'on subit et que l'on se fait subir continuellement. Être belle, bronzée, saine, drôle, intelligente, bien épilée, mince, mais avec des gros seins, cultivée, badass, mais classe, et juste être soi-même, juste quelques jours. Ne pas jouer le jeu de la compétition, à qui les meilleures vacances, le meilleur hôtel, le plus beau bronzage, à qui les plus belles photos, à qui le plus gros lion tué. Profitons des vacances pour renouer avec nous-mêmes et soyons heureux pour nous-mêmes, rien que pour nous-mêmes, sans même le partager sur les réseaux sociaux. Carpe diem, comme dirait l'autre, que le plaisir soit avec vous et avec votre esprit.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Ce soir, pour l'avant-dernière émission du mois de juillet, ne vous inquiétez pas, on revient en septembre, Radio Camping Paris reçoit Astrid Manfredi, auteure d'un premier roman intitulé La Petite Barbare, publié aux éditions Bellefond. Bonsoir Astrid.
Bonsoir Mélanie.
Alors Astrid, quelle bonne résolution ne tiendras-tu pas pendant tes vacances?
À peu près toutes. Moi, je suis très indisciplinée, donc c'est-à-dire que je vais boire forcément trop, je vais porter forcément les mauvaises chaussures et me tordre les pieds, je vais forcément me coucher très tard et je vais forcément avoir envie de continuer de faire comme ça.
Ça va être très bien. De bonnes vacances en perspective. Après un petit détour par la case prison avec Astrid, on en parlera tout à l'heure, Magali nous rejouera son festival d'Avignon par téléphone et lui-même en vacances et bénévole de Radio Campus Paris ne chôme pas. Avec Martin, nous partirons à la conquête de l'animation japonaise tandis que Guillaume nous proposera un petit billet d'humeur sur Bolloré et Canal+, ça promet. Mais question d'abord, Martin, toi qui es là, même question oui, en fait finalement. Quelle bonne résolution tu ne vas pas tenir pendant tes vacances?
La bonne résolution que j'ai pas à tenir pendant les vacances, c'est de pas prendre de bonnes résolutions. C'est une idée de merde, je pense.
Oui, c'est vrai, effectivement. Et toi, Charlène, toi qui es là, quelle
bonjour.
Bonne résolution. Bonjour, Charlène.
Et moi, ma bonne résolution, ça avait été de participer à Radio Camping Paris. Et finalement, c'est la première et dernière fois que je participe à Radio Camping Paris cet été. Donc, je vais me spécialiser en avant-dernière émission, je pense.
On est très contents que tu sois là, en tout cas, Charlène. À la fin de cette émission, on retrouvera le vol 939 avec Maxime, qui n'est pas encore arrivé, mais qui ne va pas tarder en.
Il ne tarde jamais.
Et donc, avant toute chose, on laisse notre Charlène préférée nous montrer comment elle déteste l'été et pourquoi elle le déteste profondément.
Ça fait le buzz, ça fait la une, tout le monde en parle. On en a la certitude ce soir à Radio Campus Paris. L'ambiance de la capitale s'est bel et bien barrée en vacances. Alors la Vendée, la Côte d'Azur ou les Pays-Balkans, on ignore où elle se trouve exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'est plus à Paris. Pour preuve numéro 1, je veux les 200 rafraîchissements par jour de ma timeline Facebook. Et c'est toujours l'image sordide de cette ancienne copine d'école qui apparaît. On y voit ses cuisses rougeâtres et grasses étendues sur une quelconque plage à touristes allemands. Pour preuve numéro 2, je veux les textos de ce type croisé il y a 6 mois, un insipide vernissage, qui me propose des verres tiédasses sur les quais de Seine ou la visite d'une obscure exposition au musée de la Banque Postale. Soyons honnêtes, mon garçon, envoie-moi directement, je m'emmerde, mes vrais amis sont tous en vacances, j'ai peur de la solitude, j'ai vaguement envie de baiser, et tu es le fond de vase de mon répertoire. Pour preuve numéro 3, je veux la profondeur journalistique des actus du moment. La fille de Whitney Houston est morte. Une dent humaine, vieille de 600 000 ans, retrouvée dans les Pyrénées orientales. Et aux surprises, l'été, des gens vont se baigner à la mer. Mais zut alors, des fois, ils se noient, c'est couillon. Et enfin, pour preuve numéro 4, je veux les récits de voyages frétillants de mon entourage. J'ai pris de la MD à Dour. J'ai niqué ma cousine à Biarritz. J'ai vomi mon homard à l'île de Ré. Vous me direz, tout ceci n'empêche pas l'ambiance de rester parmi nous. Il se passe plein de choses l'été à Paris. Et puis c'est bien de faire une pause, de sortir de notre frénésie, de notre névrotique besoin de productivité. L'ennui, ça a du bon, on fait le point, on se recentre, on récupère du stress de l'année. On fait une vraie coupure, tu vois. Et je vous répondrai, ta gueule, c'est ma chronique. J'aime pas l'été, point barre. Je hais l'été, je conchis la douceur de vivre, je vomis la lenteur extatique du travailleur effréné. J'exècre les petits panneaux, parti pour congé annuel, retour le 2 septembre. Je déteste l'été. L'été, c'est le moment où les citrons pressés deviennent des natures mortes. L'été, c'est la période où on se dit « Avec tout ce temps devant moi, je vais pouvoir faire plein de choses. » Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai liké la photo des saucisses de Morteau de mon ancienne copine. J'ai dit oui au clampin pour un vertier d'as et une obscure exposition. Et j'ai moi-même tenté de joindre le fond de vase de mon répertoire. J'ai lu les articles sur la fille de Whitney Houston et la vieille molaire des Pyrénées. J'ai donné mon adresse postale pour recevoir des cartes postales de Dour, de Biarritz et de l'île de Ré. J'aime pas l'été parce que l'été, j'ai tout simplement plus le temps de râler, plus le temps de me plaindre, plus le temps de trouver des coupables, plus le temps de chercher la petite bête, plus le temps de dire que je n'ai pas le temps, plus le temps d'être une vraie chieuse. Mais tout ça, au fond, c'est si bon. Et rien que pour ça, vivement l'été prochain.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Merci beaucoup Charlène, tu nous as hyper envie de partir en vacances.
C'est bien écrit au passage.
C'est très bien écrit, mais du coup on a plus envie de rien faire. Voilà.
Tu n'aimes pas ça l'hiver?
C'est moi qui ai cassé l'ambiance de Paris.
Tu n'aimes pas non plus l'hiver.
J'aime pas l'hiver non plus.
La qualité d'humour, un petit point comme ça, c'est très juste.
Oh, c'est gentil.
Bravo Charlène, tu pourras écrire bientôt un premier roman peut-être, comme notre invité Astrid.
Avec grand plaisir.
On serait ravis. Alors Astrid, sans vouloir, on l'a dévoilé depuis tout à l'heure, donc vous êtes l'auteur d'un premier roman qui s'appelle La Petite Barbare, qui vous devez s'appeler La Barbare à la base, mais qui finalement a changé de titre en cours de route.
Ce sera donc La Petite Barbare, voilà.
La Petite Barbare. Vous êtes aussi la créatrice du blog de critique littéraire Laisse parler les filles.
Ouais.
Alors comment on passe de critique littéraire à auteur de roman?
Je sais pas, les choses se font un petit peu. C'est vrai que en fait la lecture c'est quand même une incitation aussi à l'écriture. Moi ça fait très très longtemps que je lis. J'écris aussi depuis longtemps mais de façon un peu secrète, sans avoir osé le montrer ou alors simplement à des amis. Voilà, dans des petits, c'était des petits comités. Et puis au fil des lectures, au fur et à mesure d'avoir réfléchi sur les livres, avec toujours une prédilection quand même. J'aime énormément, par exemple, la littérature américaine, les auteurs assez engagés, ce qui va droit au but, ce qui est dans l'émotionnel, où il n'y a pas de 36 000 Salam Alek sur la psychologie, là où tout de suite, voilà, le personnage est là et il est campé, il a quelque chose de fort à faire ou pas de sa vie. Et voilà, donc au fur et à mesure de ces lectures, j'ai eu envie, moi aussi, de me dire, voilà, il va falloir que je fasse quelque chose avec les mots et que je sorte un petit peu de cet académisme, de la chronique pour aller vers mon univers, qui est fortement, ceci dit, imprégné aussi des autres, parce que on n'est rien sans les autres en fait. La lecture, c'est un profond vecteur pour aller vers l'écriture. Voilà.
On est donc sorti La Petite Barbare.
Exactement, oui.
Et qui est un roman qui raconte, en fait, c'est une fille, une jeune fille qui raconte, en fait, pourquoi elle se retrouve à un moment donné donc, dans une situation très délicate, dans une prison. Donc c'est un peu son journal, ou en tout cas un roman qu'elle-même essaie d'écrire au sein de cette prison. Comment vous avez commencé à penser ce personnage? Qui est finalement La Petite Barbare? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de vous, de quelqu'un d'autre, de rencontre, de l'actualité? C'est un roman qui est quand même très actuel, très contemporain. Comment elle est née, cette petite barbare?
En fait, d'un goût des personnages à la marge. Voilà, à la base, j'aime bien les êtres comme ça qui sont dans la dualité, sur le fil du rasoir, où on ne sait pas trop. Voilà, j'aime pas porter de jugement sur les gens. Et je trouve que voilà, la part d'ombre des êtres, elle est aussi intéressante que cette espèce d'exposition lumineuse qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes parfois. Et voilà, j'ai eu envie justement d'explorer ça. Et que ce soit une femme aussi, une voix de femme, de jeune femme. parce qu'au final je trouve que c'est pas si fréquent quoi, les héroïnes comme ça atypiques voilà, qui sont un peu rebelles mais sans que ce soit gnangnang ou sans que ce soit caricatural quoi. J'avais envie que ce soit vraiment une femme, une jeune femme et qui vienne de la banlieue aussi, parce que je trouve que cette, la parole de la banlieue elle a été raptée, caricaturée par les médias, espèce de mélange comme ça où chacun met son petit grain de sel sans forcément à tort ou à raison, et j'avais envie de redonner une voix aussi à ce milieu-là, et que ce soit une femme qui l'incarne, et que ce soit une héroïne, même si elle est atypique, même si elle marche pas droit, et même si voilà, son parcours est chaotique et il y a des tas de raisons pour qu'il le soit, parce que quand on grandit dans un tel environnement, avec une au milieu d'un tel chaos, avec un tel sentiment d'exclusion à la fois familiale, sociale, voilà, être tout le temps à la lisière d'eux, ne jamais parvenir à quelque chose, et que voilà, en même temps il va se passer quelque chose d'atroce, voilà, donc dans la vie de cette femme, puisqu'elle va être, se rendre complice d'un meurtre, mais la possibilité de rédemption existe, et elle naîtra aussi voilà de la confrontation avec les mots, avec des thérapeutes et aussi avec la littérature, puisque c'est un élément important par la suite dans le roman.
En fait, on a affaire à une anti-héroïne quelque part.
Anti-héroïne, ouais, c'est ça, ouais.
Mais qui quand même est très attachante, puisqu'on a un peu envie, enfin, on vit les choses avec elle, on est un peu dans l'empathie, on comprend pourquoi elle en arrive là, on comprend son désarroi, son désespoir, sa colère et sa violence face au monde qui l'entoure. Et cette anti-héroïne, elle a quelque chose de très vrai. Mais est-ce que au moment où vous l'écrivez, vous n'avez pas peur justement de tomber dans la caricature de ce qui n'est pas le cas, hein, évidemment.
Non.
Mais parce que ça, c'est quand même le risque quand on essaie de parler d'une jeune femme de banlieue qui a 19 ans, qui grandit dans un milieu, un contexte qui est quand même pas favorable. Est-ce qu'on n'a pas peur justement d'être un peu trop, est-ce que vous étiez un peu sur le fil, comment vous l'avez construite vraiment, est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment, oulala, mais je vais trop loin, je vais pas assez loin?
Je l'ai construite émotionnellement en fait, j'ai jamais pensé à ça, à me dire est-ce que voilà, à un moment je suis sur le peut-être la ligne rouge concernant comme tu le disais, la caricature. J'ai toujours fonctionné avec les émotions du personnage, enfin moi c'est un travail que j'ai fait sur sa langue aussi, hein. Voilà, en essayant de styliser une oralité, de lui trouver un langage qui lui soit propre, avec l'écriture quoi, j'ai essayé de m'approprier sa langue et que ce soit le plus juste possible, que cette jeune femme, on puisse la suivre parce qu'elle a son parler, et que ce soit pas le parler voilà de salon quoi, que ce soit un langage de la rue, mais puisque ça reste de la littérature, il fallait quand même que ce soit travaillé au niveau stylistique, lui donner une dimension littéraire, et voilà, le travail sur le style en fait a été très important pour justement trouver la justesse du personnage, lui trouver sa voix, un petit peu comme au théâtre, hein, quand on dit quand un metteur en scène dit à un comédien voilà, il faut que tu trouves la justesse, il faut que tu trouves le sous-texte, hein. Voilà, donc ça a été un vrai travail par rapport à ça. Parce qu'après, les événements, ils auraient pu être... Bon, ils sont ceux-là, mais ils auraient pu aussi être différents. Mais voilà, le travail de la langue est très précis, justement, pour la justesse, et pas sombrer voilà, dans ce côté cliché. J'avais pas, bien évidemment, envie de ça, parce que les clichés, voilà, ils sont assez présents
déjà
dans les magazines. Ouais, ouais, carrément.
On a l'impression que ce roman, enfin, quand on le lit d'une traite. C'est ce que je te disais tout à l'heure avant l'émission, c'est que c'est hyper dur de s'arrêter. Et on se dit, non, mais il faut quand même que j'en mette un peu de côté pour demain, parce que sinon... je vais tout lire tout de suite, après je serai frustrée. Et on a l'impression qu'il a été écrit comme ça aussi, qu'il a été écrit comme ça en un seul jet. Bon, j'imagine que c'est pas vrai du tout, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, comme si, comme ça, en quelques jours, tu avais pu sortir ce texte, que comme si c'était une sorte de cri de colère de cette jeune fille qui sortait comme ça d'un coup, d'un seul.
C'est vrai, ça. Non, mais il a pas été écrit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une espèce un peu en apnée, quoi, une écriture comme dans un souffle de vie, de rage de survivre aussi. Parce que cette fille-là, quoi qu'il en soit, quoi, elle est, malgré tout ce qu'elle a fait, malgré le fait qu'elle soit rendue complice de choses innommables, elle estime qu'elle a droit à une seconde chance, et c'est pas moi en tant qu'auteur qui vais la lui enlever, quoi. J'ai au contraire voulu la rendre possible, et il y a un état d'urgence, hein, c'est d'ailleurs, si je devais penser à une chanson, je penserais à celle de Björk, la State of Emergency, hein, où cette espèce d'urgence de vivre, parce qu'il faut, quoi, il faut crier, il faut dire, il faut avoir, voilà, elle a envie de vivre malgré ce qu'elle a fait, elle est jeune, elle est belle, elle aime ce qui brille, à deux pas de chez elle il y a les Champs-Élysées, mais elle peut pas y aller, donc sans être considérée comme une crasseuse, donc et alors c'est pour ça qu'elle va se mettre avec un type comme ça, une espèce de leader charismatique, pour pouvoir avoir une autre vie. Mais voilà, c'est un livre de l'urgence. C'est d'où la sensation peut-être de lecture comme ça, très rapide, qui naît quand on lit le texte.
On sent bien effectivement qu'elle a cette force, cette envie de s'en sortir. Il y a bien sûr dans ce livre une critique sociale, une critique de cette société un peu à deux vitesses où on a des gens très très riches qui peuvent...
À plusieurs vitesses.
Qui peuvent se balader sur les Champs-Élysées, s'acheter des montres et des bagues et des robes très chères, tandis qu'on a cette jeune fille qui vit en banlieue, qui a une vie de famille extrêmement compliquée, avec pas d'argent du tout, et qui donc cherche, veut tout ce qui brille. Ça me fait penser à ce film, justement Tout ce qui brille de Géraldine Nakache, avec ce côté-là un peu de deux jeunes filles de banlieue, bon, qui vont pas jusque dans ces extrêmes-là, mais qui ont quelque part envie.
On est sur la même problématique,
qui ont envie de briller et qui comprennent bien que l'argent finalement c'est un peu la voie rêvée pour tout le monde, et qui cherchent en fait à percevoir des richesses. Alors moi, en lisant votre roman, j'ai pensé à Frédéric Lordon et sa critique du capitalisme, en disant voilà, le capitalisme est quelque chose de violent, et finalement les délinquants d'aujourd'hui ils n'ont finalement pas grand chose, pas de grande différence avec les hommes d'affaires qui eux finalement leur seul but c'est de s'enrichir, et puis finalement les jeunes de banlieue leur seul but c'est de s'enrichir tout comme les hommes d'affaires et tout comme le promeut la société capitaliste, et c'est juste qu'ils choisissent pas le même chemin. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous entendre, un argument que vous pouvez vous entendre? Est-ce que pour vous vos héros, vos anti-héros, quelque part ils cherche juste à s'intégrer dans une société, ou en tout cas à profiter de cette société capitaliste de la même manière que les autres?
Il y a les voyous au col blanc et les voyous au col rouge. Donc c'est ceux de la petite barbare. Mais c'est vrai que vu que en fait ils peuvent pas tellement se projeter dans les sphères intellectuelles, ils peuvent pas se projeter dans les sphères étudiantines, ils peuvent pas se projeter dans les sphères du travail. Ne demeure que la sphère de l'argent. Donc c'est en ça qu'ils rejoignent peut-être justement ces fameux hommes d'affaires, ces loups de Wall Street, sauf que je sais plus comment ça s'appelle à Paris, mais de la bourse. Et donc en même temps, oui, c'est vrai que quelque part les aspirations sont les mêmes, les méthodes on pourrait presque dire qu'elles sont similaires, hein, quand on voit les méthodes d'un côté et les méthodes de l'autre. Et on prend peut-être un peu plus de gants dans certains domaines et un peu moins dans d'autres. On utilise plus la violence et les poings, mais de l'autre côté, c'est les mots ou les graphes de chiffres. Mais au final, je pense que quelque part, vous avez pas tort dans ce que vous proposez dans votre question. Oui, ça pourrait se rapprocher.
Vous, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur de dénoncer un peu ces inégalités. C'était aussi à l'origine du roman, ou c'est venu après dans la construction du personnage?
Non, c'était tout de suite. J'avais envie de parler de ça. Et je trouve que c'est important parce qu'au final, il n'y a pas tant de romans que ça qui l'abordent. À chaque fois que ça a été abordé, ça m'ennuyait un peu parce que je trouve que ça manquait de ce côté ultra. Je voulais que ce soit très réaliste, même si c'est très poétisé dans l'écriture. Je voulais que les situations du personnage soit très réaliste, et à tel point que sur des questionnaires auxquels j'ai déjà répondu à des journalistes, on m'a demandé si c'était vécu. Non, je sors pas de fleurir mes registres, pas encore, peut-être bientôt.
On ne sait jamais ce qui peut vous arriver.
Voilà, donc si ça, donc le sentiment de vérité qui se dégage du texte, c'était pour moi quelque chose de très important pour structurer l'histoire, et puis il y a une espèce de cohésion par rapport à ça, c'est que j'ai bien fait mon travail d'auteur.
Ça fonctionne effectivement très bien. On continue d'en discuter dans quelques minutes.
Pas
on fait
de problème.
Juste une toute petite pause musicale.
Toi, c'est nous. tu touches. Je veux bien que demain j'enlève ta main. Mais si tu touches, je veux bien que demain j'enlève ta main. Pourquoi pute ? Pourquoi pas ? Tu passes, tu casses, tout, tout, tout. Tu passes à la poste avec le parapluie de pierre. Parce que t'es pute, pute, pute. Tu joues du piano avec tes pieds nus. Parce que t'es pute, pute.
Glocabel, il est 19h22 sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris.
Glocabel qui est une ancienne de Radio Campus Paris, figurez-vous.
Mais voilà, pourquoi est-elle partie
parce
qui l'a fait fuir
elle vit aux États-Unis maintenant.
Ah oui, c'est drôle d'idée, voilà. Oui. C'est pas une raison pour faire de la musique.
N'importe quoi, c'est très bien. Glocabel, on l'aime beaucoup à Radio Campus Paris, n'est-ce pas Charlène?
Oui, moi j'adore.
D'accord, très bien. On est toujours avec Astrid Manfredi qui nous propose, qui nous présente son roman à sortir, qui sortira d'ailleurs le 13 août.
Oui.
La petite barbare aux éditions Bellefond.
Un petit peu en avance sur les autres bouquins de la rentrée littéraire, mais c'est bien comme ça. Vous pouvez l'acheter pendant les vacances si vous
voulez. Exactement, avant de partir. On peut le trouver partout, j'imagine.
Partout et dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Génial. Même à Tours, même à Poitiers.
Même à Tours, à la Fnac. voilà.
Ils ont des librairies à Tours.
Même chez Leclerc, je crois. C'est vrai.
Même au centre culturel Leclerc.
Il y a des librairies partout. À Tours, il y a plein de librairies super. Non.
On ne connaît pas très bien Tours, mais on a un tour à Tours.
Ça me plairait, je pense. Ouais, c'est très bien.
On a des amis à Radio Campus Tours, ils pourront peut-être t'accueillir. Écoute,
non, mais en plus, il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a un spot de librairie très important. J'étais étonnée même, et je trouve ça génial quand dans des villes, il y a plein de librairies, alors qu'on dit, voilà, il n'y a plus de librairies, il n'y a plus de librairies. Bah, à Tours, il y en a plein.
Tu vois, Charlène,
donc tous à Tours.
Tous à Tours.
On apprendra à médire.
Et tous dans les librairies à Paris aussi, parce que c'est important de soutenir les petits libraires.
Exactement, les libraires indépendants, comme les plus gros, il faut y aller, quoi, parce que sinon,
ouais, ils vont couler, ce serait bien dommage, ce serait bien triste.
Merci de le dire.
C'est important. Alors, ouais. Astrid Manfredi, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait de La Petite Barbare?
Mais bien sûr.
Génial.
Je vais faire ça.
Exclusivité.
Exclusivité, voilà. Donc, ça sera la page 43. Voilà, un petit bout de la page 43-44. Je vais essayer de lire très bien. Encore la nuit. Le vide. Et seule la téloche qui dégueule sa rengaine. La vraie nuit jamais noire me manque. J'en suis où? Pas très loin. J'ai 16 ans. Ma vie stagne comme un jaune d'œuf trop cuit. Heureusement, il y a le champagne, l'aubaine funky de l'adolescence, le breuvage doux et doré qu'on vole aux fils de riches en clignant l'œil de biche. Pute, c'est du boulot, tout est dans le yad. La nuit, nous marchons dans Paris, une bouteille de veuve Clicquot à la main. Terrés dans leur confort flippé, les immeubles demeurent bouche cousue. Personne ne nous entend. Le feulement de nos baskets ne laisse rien présager de la révolution qui verra le jour. Une nuit comme une autre, tout explosera. Et nous serons relax à nos fenêtres, tandis que d'autres galoperont dans tous les sens, leurs livres de lièvre érudits sous le bras. La pièce, il y a longtemps qu'on l'a écrite, mais aucun d'entre eux ne l'a lue. Ils la vivront en live. Nous tirerons les ficelles de leur vie de marionnettes de la fraternité. Ils viendront mendier l'armistice de notre rage. Nous envahirons les champs de cette existence du pire que nous avons bâtie sans même qu'on nous regarde. Ils ont laissé la mauvaise herbe pousser sous leur discours de progressistes planqués. Et aujourd'hui, c'est le venin de l'herbe folle qui s'infiltre dans leurs téléfilms. Qu'ils rangent leur science. La guerre est déclarée. Le spectacle, c'est maintenant. J'ai 16 ans. Sur ces trottoirs qui nous bannissent, ma haine éclot comme une fleur sauvage, écarlate et douce. Dans son pistil névrotique et analphabète, le souvenir de champs vierges, d'hommes unis autour d'une même parcelle d'horizon. Encore, chaque soir, je chante à tue-tête la voix de la rue mutique. À ceux qui nous disent ignares, j'envoie les premiers feux d'une révolution labellisée par les géants de la consommation qui chaussent leurs gamins. J'ai 16 ans. Parfois, je suis fière de moi. Voilà.
Très bel extrait qui va complètement dans tout ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On ressent vraiment la colère de cette héroïne ou anti-héroïne. Est-ce qu'il faut, Astrid, est-ce qu'il faut être en colère pour écrire un roman?
C'est une bonne question, ça. ouais, je pense quand même. Je pense qu'il faut qu'elle soit rentrée, qu'elle soit extériorisée. Il faut être en colère douloureuse, il faut être en colère gay, il faut. Mais en tout cas, il faut avoir une couleur dans le cœur. Voilà.
Et vous étiez en colère à 16 ans, vous?
Ah ouais.
Contre quoi?
Antisocial, je perds mon sang-froid. Non, bah oui, j'étais. J'étais en colère contre tout et n'importe quoi, contre les injustices faites aux autres, contre l'avenir, contre le passé, contre le présent. Je sais pas, c'était une colère un peu irrationnelle. C'est la colère un peu écarlate de la jeunesse qui n'a pas vraiment encore trouvé ses axes. Puis après, elle se positionne, on va dire. Elle trouve des endroits où se terrer. Mais là, c'est la colère explosive, on va dire, quand on a 16 ans. Et je trouve qu'elle est salutaire, parce que si on l'a pas, nom d'un chien, quoi. Qu'est-ce que c'est triste. Hein.
Et si une jeune fille de 16 ans en colère lit votre bouquin maintenant, vous voudriez qu'elle y comprenne quoi?
Bah, qu'elle continue, mais qu'elle en fasse quelque chose, quoi, que ce n'est pas qu'une destinée, que la colère n'est pas une destinée, que c'est au contraire un moteur pour essayer de, voilà, que puisse éclore d'autres choses, notamment la créativité. Il y a quand même énormément de gens qui créent sous cette impulsion, quoi, que ce soit les musiciens, que ce soit les peintres. Bah, il suffit de regarder Pollock, quoi, quand il jette sa peinture et que... voilà, ou les auteurs, comme je pense à tellement d'auteurs, à Despentes, à Bukowski, à les auteurs américains, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup à Fante.
John Fante qui voilà. Est absolument génial aussi.
Qui est absolument génial. Enfin, moi, c'est une de mes grandes références littéraires, quoi. Demande à la poussière, c'est une... Quand j'ai lu ça, j'étais très jeune, ça a été une révolution philosophique, intellectuelle, émotionnelle. Je me suis dit, il faut écrire comme ça. Enfin, à quoi ça sert d'écrire si on n'arrive pas à sortir cette espèce de justesse quand il se balade là quand il regarde Camilla et ses espadrilles, mais on pourrait écrire ne serait-ce que 10 pages sur la beauté de cette page, quoi. C'est
donc il faut que,
insensé.
Pour vous, pour toi, la littérature doit être cathartique. Elle doit, voilà. En tout cas, oui. Quand on la lit, on doit, oui, avoir l'impression de...
Exactement.
On vit comme le personnage. J'ai discuté récemment avec une amie qui me parlait du fait que quand elle lisait quelque chose, elle avait justement besoin de lire des choses qui la perturbaient vraiment, qui transcendaient, qui étaient extrêmement violents, hein, qu'elle avait besoin de ressentir tout ça. C'est ce que toi, tu as essayé de transmettre dans ton roman.
Oui.
C'est ce côté vraiment. Il faut faire ressortir quelque chose des autres, du lecteur, de celui qui va.
Oui, bah oui, j'espère, voilà, que ça fera ça. Et pour l'instant, les retours que j'ai, je me rends compte que ça, c'est à peu près ce que ça a produit, quoi. Donc, sans l'avoir conscientisé, j'ai pas réfléchi en me disant, voilà, faut que ça se passe comme ça. C'était, de toute façon, c'est une pulsion, quoi. C'est quand même un geste. Voilà, c'est. On écrit avec son cerveau, mais on écrit aussi avec sa main. C'est la main qui tient le stylo. C'est tout est relié, le corps, l'esprit et le cœur. Et ça se déverse à un moment sur la page blanche, sur le carnet, sur l'ordinateur. Peu importe le support. Hein, l'essentiel, c'est que. Là, il y a quelque chose à raconter. Et puis, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, surtout.
On espère. Astrid Manfredi, en tout cas, écrit avec des stylos encore.
Oui, c'est vrai.
Quel genre de stylo?
Pas d'ordinateur.
Ce que je trouve chez moi, parce que c'est le bordel dans les stylos.
À l'ancienne.
C'est vrai que plus beaucoup de gens écrivent avec des stylos.
J'ai des carnets,
C'est peut-être une autre manière aussi d'écrire. Et donc
je reprends après sur ordi, en fait.
D'accord.
Voilà, il y a un premier temps et un second temps sur l'ordinateur.
Moi, j'ai juste une petite question pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer dans l'écriture. Normalement, tu disais au tout début de l'entretien que toi, pendant longtemps, tu as écrit des textes, tu les as montrés un peu à tes amis, mais tu n'as jamais osé te lancer. Alors, est-ce que tu as des conseils à donner à des auditeurs qui aimeraient se lancer, qui écrivent un peu pour eux, mais qui n'osent pas y aller, écrire vraiment leur premier roman, des nouvelles ou autre chose?
Bah, il faut oser déjà. On est le plus mauvais juge de soi-même, c'est soi-même. Voilà, on n'est pas en mesure d'évaluer sa propre écriture. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il faut tâcher de ne pas la laisser trop secrète, qu'il ne faut pas hésiter à des proches dans un premier temps à la montrer, à avoir des retours. Fréquenter les ateliers d'écriture aussi. Enfin, moi, c'est pour les gens qui ont envie d'écrire. Je pense que même dans les facs, puis bon, dans Paris, il y en a plein pour essayer de travailler l'écriture, parce que c'est aussi une gymnastique. Hein. Ouais, c'est pas non plus le truc qui te tombe du ciel comme ça, ah, super, j'arrive à écrire quoi. Ouais. Une espèce de pratique quand même qui se fait un petit peu au fur et à mesure, au même titre qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas la littérature infuse, et puis la lecture quoi, lire. Au début, on copie, on plagie, on dit ah tiens, oh, Fante, j'aimerais bien écrire comme Fante, je vais écrire comme lui, tiens, à la façon d'eux. On peut même prendre, moi je trouve que c'est un exercice intéressant, on prend la première page d'un bouquin qu'on adore, que ce soit Madame Bovary, que ce soit Demande à la poussière, que ce soit l'actualité littéraire, qu'importe, et on se dit voilà, cette première page je la prends et je l'écris à ma façon, mais je prends cette même thématique à la façon d'eux, et ça peut être des exercices. Il faut s'exercer en fait sans arrêt, c'est comme pour toutes, j'imagine que quand on fait sa première émission de radio, bah on tâtonne, c'est comme tout, voilà. Il y a
non, la radio c'est inné,
voilà, c'est inné, voilà, super, bon, tout de suite. Donc c'est voilà, pratique, ne pas avoir honte même des mauvaises phrases, ne rien jeter. Ne jamais rien jeter. Même ce qu'on trouve hyper mauvais, genre cette petite phrase écrite sur un bout de papier, on se dit oh, c'est nul et tout. Non, on la garde, on la retravaillera une autre fois, et peut-être qu'elle sera très belle une autre fois. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. La petite barbare, donc, sort le 13 août. Est-ce qu'il y aura des signatures publiques, des choses? On pourra venir te voir,
oui,
te rencontrer.
Oui, il y a des choses là qui sont en train de s'organiser sur Paris, je vous préviendrai. J'ai aussi une signature à Lyon. Je dois avoir des choses en Lorraine. Bon, pour l'instant, les choses s'organisent, hein, parce que c'est encore le début. Il y a plusieurs salons aussi. Je serai à la Fête de l'Humanité du 11 dans le hall du livre. Il y a une grande. Ils accueillent plein d'auteurs du 11 au 13 septembre. Je pourrai voir les concerts en plus, c'est cool. Je serai au salon Les Mots Doux à Besançon en septembre. Il y a un autre salon. Je serai au salon du livre de Trouville en octobre. Un autre salon à Enfin, bref, là, pour l'instant, il y a plein de choses qui se passent. C'est en train de s'organiser. J'ai pas tout en tête, mais il y a plein de choses.
J'ai une dernière question, oui, moi. Charlène. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre bague?
Elle est bien. Hein.
Ouais, vous avez une bague intrigante.
Alors, c'est une amie plasticienne, genre en même temps, je fais sa petite pub, qui s'appelle Laurence Verdier, qui est artiste, donc qui crée des bagues, en fait, où on trouve les mots. Et les mots s'entrecroisent selon les jours qu'on souhaite.
C'est une bague
souhaite.
Carrée que vous portez au majeur de la main droite.
C'est ça. Il y a jazz, éclipse, fleuve, mirage, duel, roman, rouge et désir.
C'est le mot que vous avez choisi.
Ouais. Et on peut faire, par exemple, roman fleuve.
Par exemple.
Ou Éclipse rouge, parce qu'en ce moment je travaille sur un roman qui s'appelle Éclipse rouge. Voilà.
Ah, c'est donc le prochain roman. On a déjà
J'en ai écrit un deuxième, et puis là c'est un troisième en fait.
Ah, c'est déjà le troisième. Ouais, le deuxième est déjà écrit.
Il est déjà écrit, ouais.
C'est un taux de production.
Ouais, ouais. Il est en relecture avec des potes, justement, des bons potes.
D'accord. C'est comme Amélie Nothomb, un bouquin par an, c'est à peu près ça.
Je sais pas, je vais acheter un chapeau.
Mais en mieux.
En mieux.
On espère. Eh bien, bah, on vous recevra peut-être alors pour le prochain, le deuxième roman, le troisième roman, peut-être que le quatrième aussi. Hein. N'hésite pas à nous
rappeler. J'écris.
Hein.
Et puis faites pareil, si ceux qui ont envie, qu'ils n'hésitent pas. Pensez à Charlène qui a écrit très belle
chronique. Tu pourras faire un petit bouquin de toutes tes chroniques.
Non, je vais réécrire la Pléiade, moi.
Oh là là.
Tu ne peux pas écrire la Pléiade. C'est un jour, tu auras une Pléiade à ton nom.
Je vais l'écrire en Schtroumpf.
La Pléiade de Charlène.
Charlène Nouilloux en Pléiade. Si un jour ça sort, vraiment, je l'aurai direct dans ma bibliothèque.
En même temps, si Jean d'Ormesson est une Pléiade, on peut mettre Charlène.
Jean d'Ormesson est mon père.
D'accord.
Merci beaucoup, Astrid Manfredi.
Merci à vous.
Tu restes un peu avec nous?
Ah oui, je reste un petit peu, je vais avec vous.
On va encore raconter quelques bêtises dans le reste de l'émission. Mais d'abord, on fait une petite pause musicale.
Dis-nous si c'est bien. Dis-nous si ça va.
Camping Paris, les 19h38.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Et on doit avoir Magali au téléphone. Magali, tu es là? Tu nous entends?
Oui, oui, bonjour.
Comment ça va? Tu es où, Magali?
Ça va bien, je suis en direct de Moustier-Sainte-Marie, dans les Alpes de Haute-Provence.
Ah, ça a l'air sympa.
Oui, c'est très beau.
Qui t'a forcé à aller là-bas?
C'est un des plus beaux villages de France.
Est-ce que tu penseras à nous envoyer une petite carte postale à la radio, s'il te plaît, Magali?
Ça marche.
Génial.
Pas de soucis, je vais faire ça.
Et la semaine dernière, tu étais donc au Festival d'Avignon et tu as quelques spectacles à nous proposer. Tu vas nous faire un petit retour sur ton Avignon à toi. C'est bien ça?
Oui. Exactement, et pour commencer, j'aimerais vous parler d'un joli spectacle que j'ai vu dans le Festival Off, qui se nomme De la Porte d'Orléans, mise en scène par Philippe Rodriguez Jorda et écrit et interprété par Audrey Bonnefoy. En fait, c'est un spectacle où l'actrice est seule en scène, mais elle est accompagnée de 10 marionnettes. Alors, je vais mieux en parler après, là, je vais vous parler un peu de l'histoire. C'est une sorte de conte qui suit les fils d'un matériau brut issu de la réalité, parce qu'en fait, on est en 1942. Des femmes à Paris résistent, se rassemblent en réseau et réalisent des actions, des menues actions, mais tout de même au péril de leur vie. Et l'auteur s'est inspiré d'un de ces faits divers. Et en fait, on va suivre le fil de l'histoire du point de vue d'une petite fille de 6 ans qui va croiser plusieurs personnes qui racontent chacune à leur façon une ambiance du Paris secret, caché, codé, interdit, dangereux et résistant de l'époque. Donc c'est là où on entend parler de marché noir et de drôles de petites phrases aussi dans le poste de radio TSF de la grand-mère qui étonne la petite fille et qui peut alors déployer son imaginaire. Par exemple, il n'y a plus de tabac dans la tabatière ou il est temps de cueillir des tomates. Elle se demande bien ce que ça veut dire. Et chaque personnage que rencontre la petite fille, donc le pharmacien, le vendeur de journaux, la mercière, etc., est représenté par une marionnette différente, qui sont toutes plus expressives les unes que les autres et qui ont été conçues par Alexandra Basquin. Elles sont de taille et de forme distinctes, ce qui permet à la comédienne de les manipuler et de les appréhender de manière variée. En fait, la comédienne est à vue du public, en robe noire, avec une belle coiffure un peu d'époque, tressée. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle change de timbre de voix à chaque nouvelle marionnette. Et c'est assez bluffant. Et les marionnettes, du coup, elles semblent être un peu le prolongement de la comédienne qui parvient à les rendre palpables de façon quasi organique. Et moi, ce que j'ai vraiment particulièrement aimé dans ce spectacle, c'est cette interaction toujours renouvelée entre la marionnette et la comédienne. Et souvent, cette interaction révélait l'imaginaire de la petite fille. Je pense par exemple à une marionnette qui représentait la gardienne d'immeuble, collaboratrice, qui empresse de questions la petite fille. Eh bien, en fait, la marionnette, elle devient littéralement vivante. Et on a l'impression de voir un vrai serpent autour du cou de la comédienne. Et donc tout ça se passe à Paris, on traverse les rues de Paris avec la petite fille, et Paris, ici, c'est une sorte de mal modulable, finalement. La scénographie de Guillaume Hinoux est très astucieuse et esthétique. C'est une sorte de boîte à surprise transformable en bois. On voyage de rue en rue en déplaçant des planches, où l'intérieur et l'extérieur se côtoient. Donc tout à coup, on se retrouve chez les voisins, dans leur salon, et hop, une petite porte est abaissée, on se retrouve chez le vendeur de journaux, etc. Donc c'est un décor qui révèle toute une poésie topographique et qui devient un véritable jeu pour la comédienne. Et moi je trouvais que finalement le décor devient lui-même une marionnette à manipuler. Donc pour moi c'était vraiment un petit coup de cœur du off. J'aimerais aussi vous parler juste 30 secondes d'une fiction musicale alors de France Culture, hein, une autre émission de
non,
radio.
C'est, non, on les aime pas, non, c'est, les concurrences, c'est la concurrence, tu ne parles pas sur France Culture, non mais ça va pas t'appeler France Culture, tu veux parler de France Culture.
Est-ce que
on peut juste... Pour qu'elle se prend l'autre, tu nous parles d'une fiction musicale de Radio Campus Paris, s'il te plaît, tu te démerdes, tu retournes à Avignon et tu trouves...
Charlène, juste Magali, avant de passer à ce spectacle de France Culture, est-ce qu'on pourrait voir ce premier spectacle quelque part à Paris bientôt ou pas du tout?
Bah on espère.
Ça m'intéresse.
On espère, mais sinon ça sera en Picardie normalement. Mais
c'est pas très loin.
Je vous dirais. Oui,
on peut aller en Picardie. Mais,
en tout cas,
on peut aller aussi en Picardie.
Ah bah oui, allons en Picardie. Bah oui,
on peut aller à Tours aussi.
On
peut en tout cas écouter Pièces Détachées. Peut-être que s'il passe à Paris, on entendra parler dans Pièces Détachées, l'émission de théâtre de Radio Campus Paris.
Belle émission.
Exactement.
Très belle émission.
C'est sûr même.
Et donc maintenant, la fiction radio musicale de France 8.
Voilà.
Une radio qu'on ne citera pas à l'antenne.
Donc il s'agit en fait de deux textes du dramaturge allemand de Heiner Müller, Ajax par exemple et La libération de Prométhée, qui a été dit par le comédien André Wilms et accompagné en musique par Mathieu Bauer et ses musiciens, réalisé par Alexandre Planck. Et en fait Avignon c'est aussi les lieux. Et le lieu là il est vraiment sublime, c'est la cour du musée Calvet, une sorte de petit havre de paix en plein air sous les tilleuls où on peut venir écouter en direct donc une fiction dans les transats qui est plutôt sympathique. Et alors qu'on est à moitié endormi par le chant des cigales, là, il y a André Wilms qui nous réveille avec cette profération si particulière et physique et qui scande les mots de Heiner Müller de façon vraiment poétique et animale. Il est assis, mais on a l'impression étrange qu'il est debout tout au long de cette lecture-performance. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment de poésie rock.
Qu'on pouvait écouter aussi à la radio, du coup. Ou pas du
tout.
Oui,
c'était en direct. Ouais.
D'accord.
On pouvait voir et écouter à la fois.
Ben voilà qui peut t'inspirer pour tes prochaines fictions de pour pièces d'achat.
T'en fais pas. Oui.
On espère bien, hein, Magali. Est-ce qu'on peut réécouter cette pièce musicale?
Oui, ben vous allez sur le site
de France
Radio. Qu'on ne citera pas.
La radio violette.
Voilà.
Très bien. Ben merci beaucoup. On te retrouve
faites
demain.
De rien. Oui, tout à fait.
Eh bien,
et
super.
Je vous raconte la suite des aventures avignonnaises.
Passe une très bonne soirée, Magali. Merci pour ton
vous
appel.
Aussi.
À très bientôt.
À bientôt.
Bonne
au
soirée.
Revoir.
Et on revient donc à Paris. Bah oui, à Paris, il n'y a pas le bruit du vent. Et non. On est en studio, c'est quand même beaucoup moins rigolo. Mais on a Martin,
Martin
qui va nous parler des animés japonais.
Oui, hein. Oui, Mélanie, je vais te parler donc d'un truc que je mate régulièrement depuis mon adolescence et qui n'est non, je te vois, je t'allais le dire là, je sens que
c'est les enfants.
Ce n'est pas le porno.
Ce n'est pas les enfants non plus, c'est pas le porno. Hein, c'est bien
enfants,
donc
c'est
tu l'as dit, les animés japonais, les dessins animés créés et diffusés au Japon. Alors la France, c'est quand même le deuxième marché pour les mangas hein, devant les Américains. Les Américains étant beaucoup plus que nous, c'est quand même une performance. Le premier marché étant le Japon. Lui-même. Alors malheureusement, quand on parle d'anime avec des gens, souvent anime japonais, bah, dans la tête des gens, ça donne ça d'abord. Voilà, et ça peut même être pire que ça, ça peut donner ceci.
C'est trop bien, j'en ai
Serge. Non, c'est dégueulasse. Merci. Bon voilà, on fera un débat sur Jeanne et Serge plus tard. Donc les animés, je vous ai évité Olivier Tom quand même hein, pour le plaisir, même si bon moi j'en garde un bon souvenir, mais c'est quand même pas un chef-d'œuvre. Pourtant vraiment, il y a chaque année et y compris dans les années modernes aujourd'hui, on n'a pas besoin de revenir aux années 90, des animés de très grande qualité qui sortent, des œuvres qui n'ont rien à envier aux séries américaines, voire même au cinéma. Du coup, je vous propose de découvrir de la Japanime en trois séries, histoire d'en finir un peu avec les préjugés débiles. On écoute un premier. Voilà, alors ça c'est la première, ça c'est le générique de début, c'est l'œuvre d'un maître de l'animation japonaise, son nom c'est Shinichiro Watanabe. Alors vous connaissez peut-être ce monsieur, il a fait Cowboy Bebop, qui est une des séries les plus connues en France, ça avait carrément été adapté au cinéma. Alors là on n'est pas dans l'histoire de chasseurs de primes dans un monde de science-fiction, non cette fois on est dans une sorte de Japon médiéval étrange, ça s'appelle Samurai Champloo cette série. On suit un samouraï qui s'appelle Jin, un renégat qui s'appelle Mugen et une jeune fille qui s'appelle Fu à la recherche du père de cette dernière. C'est l'occasion d'un road trip à chaque épisode à travers le Japon,
d'émissions et de rencontres avec des mecs qui taguent des murs, d'autres qui font des battles de beatbox. On est vraiment dans un anachronisme, je vais y arriver, le plus total. Et d'ailleurs, la bande-son, on vient de l'entendre, est totalement hip-hop. Hein. On peut vous dire à quel point, d'ailleurs, ça va loin. Il y a même un épisode qui est mémorable, qui oppose nos Japonais à une bande de marins américains dans une partie de baseball un peu complètement dingue. On écoute un extrait.
Cette fois, la situation est carrément désespérée. Il ne reste qu'un seul joueur opérationnel dans l'équipe Nippon. À 1 contre 9, sa mission semble impossible. Comment retourner la situation en sa faveur?
T'es cuit, mon vieux. Tu ferais mieux de laisser tomber.
Tu voudrais que je jette l'éponge face à toi et à ta bande de rigolos? Tu vas voir ce que tu vas voir, la Merloc. Bon, pigé. On va la lancer normalement, cette putain de balle.
C'est jamais surjoué, c'est ça qui est bien.
C'est plus une balle, c'est un obus. Si Mugen poursuit sur sa lancée, le batteur adverse est mort.
Voilà, donc Mugen qui a une force assez incroyable. Bon, c'est la VF. Enfin, écoutez ça en VO, bien sûr. Écoutez ça en VO. Malheureusement, j'ai mis la VF pour que ce soit compréhensible, car le japonais, pas grand monde ne le parle, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc Samurai Champloo.
Pas beaucoup de monde, mais pas nous.
Voilà. Attends, tu es limité linguistiquement. Il y a des gens qui, voilà, qui ont un peu fait des études, qui ont travaillé, qui font des efforts.
Allez, je t'écoute. Fais la suite de la chronique.
Non, ça va.
Ah, c'est gentil de ta part. Donc voilà, donc Samurai Champloo, hein, c'est une série donc à la fois très drôle avec des moments comme ça, comme ce match de baseball, avec des moments où avec ces mecs qui font du tag alors qu'on est quand même dans un monde médiéval, des combats sublimes, des personnages fouillés qui abordent même la répression du catholicisme dans le Japon médiéval shintoïste, donc on va quand même dans des choses assez techniques, et ça c'est pas toujours le cas dans les animés. Un mythe de l'animé à voir absolument. D'ailleurs, voyez tout ce que fait Shinichiro Watanabe, hein. Il a dernièrement fait un truc qui s'appelle Resonance of Faith sur des jeunes gens qui se mettent au terrorisme, c'est assez incroyable. Donc tout ce qui touche est un chef d'œuvre, hein, ce mec. Autre série extrêmement réussie, on écoute rapidement l'opening, le générique. Donc voilà, ça c'est le japonais, la J-pop. Bon, ça on peut pas y échapper, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ça s'appelle Psychopass, ça prend place dans un monde qui ressemble un peu à Ghost in the Shell, donc qui était l'un des films qui a fait connaître l'animation japonaise en France. Là on est à Tokyo, on est dans le futur, il y a une technologie qui permet de mesurer la teinte de criminalité de tout le monde. Alors en gros, plus vous êtes proche du rouge sur le truc qui mesure, la machine qui mesure, plus votre chance de commettre un crime augmente. Du coup, on arrête les gens avant même qu'ils enfreignent la loi, c'est pratique.
Pas ce que vous voulez, Nicolas Sarkozy.
Bah voilà, j'allais dire, c'est le rêve. J'avais failli le l'écrire dans cette chronique. Voilà. On suit le bureau d'investigation, donc chargé de ces arrestations. Et on suit Tsunemori Akane, qui est là, une toute nouvelle dans ce bureau. Un bureau où se côtoient des enquêteurs, donc qui eux ont une teinte parfaite et sont des gens bien. Et des exécuteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont reconnues comme criminels potentiels, qui peuvent donc tuer au nom de la loi sans risquer d'assombrir leur teinte de criminalité parce qu'elle est déjà sombre, donc c'est déjà réglé. La force de cette série policière, c'est une enquête, une vraie enquête policière très polar, très violente des fois aussi, à la poursuite d'un serial killer qui tue, mais lui ne voit pas sa teinte s'assombrir, donc il est complètement hors du système. Ça pose la question de la sécurité dans nos sociétés, du droit à disposer de soi-même et à la soumission de l'État, parce que dans ce monde-là, tout le monde est soumis à ce jeu de teinte, tout le monde veut avoir la teinte parfaite. Donc une série géniale, il y a déjà 2 saisons, ça s'appelle Psychopass, à voir absolument.
Mais comment font les daltoniens?
Bonne question.
Troublant pour eux.
Voilà, mais en fait, il y a un pourcentage, si ça peut te faire plaisir.
Ah oui, bah, je te rassure.
Donc, si t'es daltonien et nul en maths, t'es mal parti.
Mais oui, c'est ça. Du coup, tu tues des gens parce que
c'est ça.
Pas,
et donc, bon, c'est bon. Vu que les mecs n'ont pas de prison, hein, ils tuent directement, c'est pas des poètes.
Hein. Bien, la vie est simple.
Ça se règle simple dans ce Japon-là. Alors, pour finir, un dernier classique de la Japanimation, rapidement, s'appelle Full Metal Alchemist. On écoute un extrait en VF, rapidement.
Alchemist.
Qu'est-ce qui se passe, mon minou? Le dîner n'est pas à ton goût.
Toujours une VF pas terrible, mais je peux rien faire.
Mais c'est impossible! Ses griffes sur ta jambe, ton bras dans sa gueule! Personne ne peut résister à ça, à moins que tes membres ne soient pas de chair et d'os.
Bravo, t'as trouvé ça tout seul? Regarde bien! Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit.
Donc voilà, Full Metal Alchemist. Alors, on est plus dans une série un peu, donc ce qu'on appelle shonen, plutôt pour adolescents, mais ça marche très bien. C'est l'histoire de 2 frères dans un monde où l'alchimie est possible. Alors, on peut décomposer et transformer la matière comme on veut. On peut transformer le plomb en or, par exemple. Les alchimistes capables de faire ça sont au service d'un état contrôlé par l'armée. Et parmi eux, il y a nos héros, c'est les frères Edward et Alphonse Elric. Ils ont tenté de ressusciter un mort. C'est le tabou un peu de la science alchimique, car c'est basé sur la chimie. Hein. Tout ce qu'on donne doit avoir une compensation. Du coup, Edward a perdu sa jambe et son bras. bras qui ont été remplacés par des prothèses en métal. C'est pour ça que la bestiole qui l'a mordu n'a pas réussi à le mordre. Et Alphonse, lui, carrément, n'est plus un humain, mais une armure vivante. Son âme est attachée à l'armure. On suit donc ses deux frères embarqués dans une guerre et ensuite dans un complot qui les dépasse complètement. C'est vraiment une série qui dépasse voilà, ce simple concept classique du manga shonen, donc du manga pour adolescents, d'un héros qui affronte des épreuves pour devenir de plus en plus fort. Là, Full Metal, il y a les questions de pouvoir, de la violence de l'armée et même de crimes contre l'humanité, car il y a une histoire de génocide là-dedans. C'est une grande fresque fantastique qu'aurait pas renié, par exemple, je sais pas, un Philippe K. Dick ou un amoureux, peut-être un Damasio, même, il y a des choses comme ça qui touchent. Voilà, donc Samurai Champloo, Psychopass, Full Metal Alchimiste. Alors, il y a plein d'autres choses à voir, mais avec cela, je vous promets que vous changerez d'avis sur la Japanime. Et faites attention, une fois qu'on est mordu, c'est très difficile de s'arrêter. J'en suis un peu la preuve vivante.
Merci beaucoup, Martin. Une très 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 courte pause musicale. Et on vous retrouve juste après avec Guillaume et le vol 939.
Stranger kisses and pixie dust. Crazy nights that's filled with lust. I don't know you and really don't care, cause I'm never really aware. And girls like guys who's ripped and buff, and guys like girls who have big butts, and girls are sad all of the time, cause good guys are so hard to find. So why not go out and make a scene? Mess. They say I'm a big party machine, and all my friends say I get so mean, but what do they know? They're just all upset, because life's no answers, just one big guess. So why not go out and make a scene? So why not go out and make a scene?
Samir, Make a Scene, 19h54, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris.
Guillaume, tu as 20 secondes pour démonter Bolloré et Canal+, c'est parti.
20 secondes, ok. Auditeurs et surtout chères auditrices, je tenais à vous parler aujourd'hui d'un grand homme, un capitaine d'industrie, hein, puisque sur cette antenne, nous avons vocation à inspirer notre jeunesse. Comme Emmanuel Macron l'avait compris, l'essence du socialisme, c'est de donner à chaque jeune les moyens de rêver d'être un jour milliardaire. Donc une chronique success story aujourd'hui, hein, ça nous change des histoires de grecs. Cet homme d'une générosité exceptionnelle qui n'hésite pas à inviter des personnes de petite taille sur des yachts, c'est Vincent Bolloré. Fils de Michel Bolloré qui détient une célèbre société de papier à rouler des cigarettes et d'autres cônes plus longs, fondé par son arrière-grand-père en 1822, Vincent Bolloré passe sa jeunesse dans la campagne finistérienne, occupé à bourrer les cônes familiaux. En 1970, il démarre sa carrière dans un poste anodin à la Banque de l'Union Européenne Industrielle et Financière, avant d'être nommé à l'âge de 23 ans, directeur adjoint à la compagnie financière Edmond de Rothschild. Alors, un beau profil LinkedIn, hein, déjà. Donc on démonte tout de suite une légende urbaine, la vente de feuilles OCB n'a jamais servi à financer le FN, simplement l'UMP. Hein. C'est un peu comme propager la syphilis. syphilis au lieu du VIH. Voilà, petit à petit, par la magie de la concentration industrielle, ce qui n'était qu'une entreprise familiale vivant sur la rente des fumeurs de roulés devient un vaste empire. Un conglomérat international présent dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du transport, de la logistique, du fret, de la publicité ou encore des médias. Président depuis 2014 de Vivendi, c'est Monsieur Bolloré qui contrôle désormais Canal+. Vincent Bolloré, tel Valérie Damido débarquant dans un camp de Rome, décide alors de faire un peu de ménage. Sauf que Vincent Bolloré est à la discrétion ce que François Hollande est au port de testicules, un total étranger. Quand il décide, par amitié pour son ami le petit Nicolas, de supprimer les marionnettes des guignols qui n'arrêtent pas de l'embêter, c'est un tollé national qu'il déclenche, passant pour un censeur, déclenchant l'apparition de hashtags plus populaires que le fameux « Je suis Charlie ». Il se rétracte finalement en partie, puisqu'il a seulement viré tous les auteurs des guignol trop bien payé à son goût, et qu'il fait passer l'émission encryptée afin d'attirer de nouveaux abonnés. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que payer pour voir les guignols, c'est un peu comme tenter de se faire des copains dans le métro. Et puis, Vincent Bolloré connaît bien le droit du travail, puisqu'il a notifié à toute l'équipe d'intermittents qui réalisait le Grand Journal qu'ils ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions par voie médiatique. Alors certes, le Grand Journal survivait avec peine, mais qu'est-ce que c'est que 80 personnes qui réalisent une quotidienne comparée aux dizaines de milliers d'employés du groupe Bolloré ? Bolloré veille toujours aux excès des médias avec zèle, quand ces vilains journalistes pourrait faire du mal à ses copains. Par exemple, quand il découvre que sa chaîne prévoit de diffuser un docu d'investigation sur le rôle du Crédit Mutuel et la fraude fiscale, ni une idée de dégaine son smartphone, et zou, on censure le documentaire ni vu ni connu, sauf par Mediapart. Mais bon, un scandale que seul Edoui Plenel dénonce, c'est un peu comme une photo de Rihanna à poil, hein, tout le monde s'en fout, hein, le public en voit tout le temps. Voilà. Donc, merci à toi, Vincent Bolloré, car pour toi, l'amitié n'est pas un vain mot, mais apprends à être un peu plus discret, parce que quand tu donnes des coups de main à tes copains, tu es plus grillé qu'un monsieur en chapeau et en manteau de Derrick qui distribue des bonbons au miel devant les écoles.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Merci Guillaume.
Je t'ai trouvé un peu
deux minutes
blanc,
pour terminer cette émission.
Alors, c'était très bien quand même, je peux
c'était
dire.
C'était très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dire au revoir. Merci à tous. Merci à Astrid Manfredi. Voilà. Bravo
merci
pour ce
vous.
Roman. La petite barbare ouais, ouais. aux éditions Bellefond. C'était génial. Merci à Tiffany pour la réalisation de cette émission. On y va, c'est parti pour Vol 939.
Vol 939. Précédemment, dans Vol 939, le Tour de France a retardé le décollage. Retrouvons le commandant et le copilote.
Vol 939 à tour de contrôle. Nous attendons désespérément l'autorisation de décoller.
Attendez, nous attendons la validation de l'étape 23-6.
C'est quoi l'étape 23-6
Que personne ne sorte avant la fin de la validation de l'étape 23-6.
Ouais, inutile de céder à la panique.
Non mais c'est quoi là ce bordel?
Nous faisons partie de l'équipe de déminage.
Ouais, vous venez déminer quoi exactement?
Nous sommes sous le secret professionnel. Il nous était impossible de vous dire qu'une bombe a été signalée dans l'appareil, n'est-ce pas Didier?
Tout à fait chef.
Une bombe? Alors qu'est-ce qu'on fait encore là?
Mais il faut sortir d'ici au plus vite.
Ouais, on se calme, c'est clair.
On vous a dit de pas céder à la panique là.
Ouais, on nous laisse faire notre travail et tout se passera bien.
Tout va bien commandant?
Non, il y a une bombe dans l'appareil.
Ah d'accord, je note. Votre attention s'il vous plaît, nous signalons passager qu'une bombe se situe actuellement dans l'appareil.
Non mais arrêtez ça là, vous allez créer une émeute dans l'avion.
Ah là, d'accord. Votre attention s'il vous plaît, nous signalons au passager qu'une bombe ne se situe pas actuellement dans l'appareil.
Parfait. Didier, pouvez-vous nous passer le détecteur H322?
C'est vous qui l'avez, chef.
Ah non, je vous avais dit de le prendre.
Mais non, vous avez dit de prendre le détecteur H319.
Et vous, celui-là, vous l'avez?
Non plus.
Non mais c'est quoi là, ces gros branques là?
Calmez-vous, nous contrôlons la situation.
Ouais, nous allons passer au plan B.
Excellente initiative. La bombe. La bombe! Viens là, ma petite bombe!
Non, mais c'est ça votre plan B?
La bombe!
Nous sommes des professionnels!
Ouais, des professionnels de l'incompétence surtout!
Taisez-vous, je sens qu'elle est toute proche!
Hein? Quoi?
Où ça?
Derrière le tableau de bord!
Faut le démonter, hein!
Ah, bah j'ai des outils si vous voulez pendant qu'on y est!
Inutile! Sors de là! Allez, sors, salope!
Allez, mais arrêtez, arrêtez là! Arrêtez, on va plus pouvoir décoller là!
Alors, chef!
Fausse alerte, nous allons devoir passer l'avion au grippe!
Non, on dit au peigne fin!
On sait ce qu'on a à faire! En attendant, touche à rien là!
Je préviens la tour de contrôle!
Bah, impossible, ils ont tout pété là!
Bah, on fait quoi alors? On joue à trois petits chats?
Bon, au point on en est, hein! Trois petits chats! Trois petits chats!
Trois petits chats!
Ont-ils trouvé la bombe? L'avion sera-t-il réparé? Que faisaient ces trois petits chats? Vous le saurez dans le prochain épisode de Vol 939.
A demain! Bonne soirée à tous sur les campus
de Paris! Bisous!
20.
20.
Éteins la télé maintenant.
Il est 20h. Radio Campus Paris.
Alors, ça te plaît ?